Avant de dire ce que c'est, vaut mieux dire ce que ce n'est pas. Parce que tout dépend du sens que vous donnez au mot. La globalisation n'est pas l'internationalisation, c'est même sa négation. La globalisation réellement existante est un mécanisme purement financier, c'est, je dirais, la possibilité pour le capital financier de s'optimiser, de se reproduire au maximum partout. Voilà. C'est une logique purement financière, facilitée par les technologies de l'information, du temps réel en quelque sorte, mais c'est un mécanisme qui contourne, qui ignore tous les collectifs organisés, que ce soit des nations ou des groupes régionaux ou des entités infra-étatiques, des régions, etc. L'objectif de la globalisation financière, c'est de supprimer tout ce qui est collectif, de déconstruire les collectifs, comme l'a dit Pierre Bourdieu, et de ramener ce qui existe comme société à des individus. Je dirais que c'est le fantasme qu'avait Margaret Thatcher lorsqu'elle a dit un jour, on lui pose une question sur la société. Elle répond, société, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne connais que des individus. Ça, c'est ça l'objectif de la globalisation financière, de ce que nous appelons la mondialisation libérale. Nous sommes des internationalistes. Nous ne sommes pas repliés chacun dans notre petit coin. Nous avons une vision internationale. Et ici, à Porto Alegre, vous avez pu voir, il y a plus de 120 pays qui sont représentés, plus ou moins bien, bien entendu. Mais nous tentons d'élaborer des propositions qui partent de chacune des réalités. Parce que ce que nous avons en commun ici, finalement, ce sont des valeurs. Ça, les valeurs, elles ne sont communes. Mais à l'intérieur de ces valeurs, nous pouvons avoir des hiérarchies différentes, des agendas différents. Par exemple, ici, en Amérique latine, l'archi-priorité, c'est le problème de la dette. Parce que la dette est en train de tuer les pays. Bon, nous, en France ou en Europe, nous sommes des pays endettés, mais ce n'est pas le même type de dette. Et pour nous, c'est... Nous luttons, par exemple, ici, en Europe, pour la taxation de la spéculation sur les monnaies. Nous participons aussi aux campagnes sur la dette. Mais la sensibilité du public belge, flamand ou français, elle n'est pas a priori sur la dette, parce que nous n'avons pas à subir chez nous les diktats du FMI ou de la Banque mondiale. Alors nous subissons ceux de la Banque centrale européenne. C'est une autre façon de faire, mais c'est moins visible. Donc à l'intérieur des mêmes valeurs, nous avons des priorités différentes. Et tout le but du jeu, ça consiste à les harmoniser et à mener ensuite des campagnes communes. Alors si vous me demandez ce qu'il y a de bien dans la globalisation, mais je vous dirai rien. Si vous pouvez me citer un exemple, j'essaierai de vous répondre. Je n'en ai pas vu un seul encore. De cette globalisation-là. Alors, les alternatives, nous n'avons pas de petit livre rouge de l'anti-mondialisation libérale. Nous n'avons pas un programme commun de gouvernement mondial. Les alternatives qui ont existé, ce fameux socialisme réellement existant, qui s'est effondré à la fin des années 90, nous a montré, je dirais, l'inanité de programmes, de lead procustes politiques dans lesquels on veut tout faire passer. La démarche que nous avons est totalement différente. Elle consiste à remettre en route les sociétés, à montrer que, comme nous l'avons dit dans le diplôme, et c'est maintenant un des thèmes de forme, un autre monde est possible. Nous ne sommes pas condamnés à ce monde barbare qui se met en place. Il y a des pistes. Nous avons des pistes, mais qui, additionnées, ne forment pas encore un programme. Mais dans 5 ans, dans 10 ans, je ne sais quand, oui, nous arriverons peut-être à un ensemble de mesures articulées les unes avec les autres au niveau international, qui ensuite seront déclinées nationalement. Mais nous ne prétendons pas enfermer ce forum ou de ceux qui viendront dans un cadre rigide. L'important, c'est de... Et je crois que c'est là la bifurcation. C'est une bifurcation que nous vivons, là. Quand, déjà, lorsque nous avions écrit dans le diplôme, c'était quand il y a... Un autre monde est possible, c'est il y a 3 ans, par là, 3, 4 ans
Oui, 4 ans.
Et 4 ans. Déjà, dire qu'un autre monde est possible, c'est une bifurcation. Ça veut dire... Nous ne nous contentons pas de dire non à ce monde, mais nous disons qu'on peut en faire un autre. Et qu'il y a quand même déjà des quelques pistes qui peuvent être mises en branle. Et la signification de ce forum, c'est ça. C'est ne plus se contenter de dire non au FMI, non à la banque, non à l'OMC, ce que nous allons continuer à faire, évidemment. Et je dois dire que, vous savez que l'OMC a décidé de faire sa conférence ministérielle au Qatar. C'est tout un programme. C'est un peu comme Davos aujourd'hui. Et Davos a été transformé en camp de concentration avec barbelés, policiers, etc. Le Qatar, il n'y aura même pas besoin de barbelés parce que personne ne pourra y aller. Mais le fait que des gouvernements acceptent de se réunir au Qatar est une totale caricature. D'ailleurs, nous allons élever une protestation vigoureuse auprès du gouvernement français pour qu'il n'aille pas à Qatar.
C'est une catastrophe.
Oui, c'est une catastrophe. Donc voilà, nous sommes dans une démarche, dans une nouvelle démarche, et je pense qu'on peut dire que c'est une bifurcation qui se produit actuellement. C'est d'aller vers des alternatives positives avec des pistes qui sont déjà esquissées. Bon, la plus importante et de très loin, c'est l'annulation de la dette publique du tiers-monde. Ça, je crois qu'il y aura unanimité pour demander cela. Il y aura unanimité pour demander la suppression des paradis fiscaux. Il y aura unanimité pour demander la mise en place de la taxe Tobin et d'autres formes de contrôle des capitaux. Et puis pas mal d'autres thèmes. Nous sommes concernés par la réforme agraire. Mais vous avez quelques thèmes économiques qui, en dernière instance, reviennent à quoi ? Ils reviennent à dire que le politique s'est lui-même mutilé et a donné tous les pouvoirs à la finance. Parce que la finance ne les a pas pris, les pouvoirs. Elle n'a pas fait un coup d'État. Ça s'est fait par la voie légale. C'est les politiques qui se sont coupés un doigt, un bras et puis même la tête. Il ne reste plus grand-chose de la tête. Eh bien, si les politiques commencent à prendre des mesures, même timides, parce que la taxe Tobin, c'est très timide, ça veut dire qu'ils reprennent la main sur la finance. Un petit peu, ils reconquièrent du terrain. Et c'est ça que les financiers ne supportent pas. C'est pas le montant de la taxe Tobin. Ils s'en fichent complètement. Ils sont 40 milliards, 100 milliards, ça fait un peu mal, sans doute. Mais ça ne remet pas en cause le système. En revanche, si les citoyens, à travers de leur expression politique, disent vous, les financiers, on va vous remettre à votre place, qui est une place subalterne. Vous êtes là pour servir la société et non pas pour vous servir de la société. Ça, c'est gravissime. Donc, le refus des financiers et de leurs porte-parole que sont les ministres des Finances, et notamment le nôtre en France, M. Laurent Fabius, c'est ça qui les gêne. C'est la symbolique. Et parce qu'ils se disent, si jamais on fait quelque chose contre la finance, ça va les mettre en appétit, ils vont en demander encore beaucoup plus. Et ils ont d'ailleurs tout à fait raison. Eh bien, nous ne sommes pas des amateurs de coups d'État, ni même des guérilleros. Nous vivons dans des états de droit où il y a des gouvernements, il y a des parlements qui sont élus. Eh bien, toute notre action vise à créer des rapports de force politiques dans chacun de nos pays et au niveau européen, bien entendu, pour que les politiques se sentent contraints de prendre des mesures. Il y a une sanction, c'est le bulletin de vote aussi. Donc tout notre travail à attaque en France, c'est un travail d'éducation populaire. C'est de faire comprendre à nos concitoyens qu'effectivement, il y a des choses qui sont faisables. Et pour les faire, il faut d'abord comprendre comment ça marche. C'est ce que nous faisons par de multiples initiatives, des sessions de formation, université d'été, publication de livres, de brochures, etc., pour que tout le monde comprenne que l'économie, c'est à la portée de tout le monde. Alors évidemment, on veut nous embrumer avec des formules mathématiques, etc., etc. Mais le fond est beaucoup plus simple que ça à comprendre. Puisque je vous dis, le but du jeu, c'est tout simple, c'est de changer, de dire qu'au lieu que ce soit la société qui soit au service de l'économie, quand je dis de l'économie, c'est même pas de l'économie, c'est même pas de la finance, c'est de la spéculation financière. Il est caricatural que ce soit Soros, entre parenthèses, qui est spéculateur professionnel, qui est méga spéculateur professionnel. C'est Soros, donc le grand chef de la spéculation, qui va nous parler de la société. Il va voir la société vue du côté de la spéculation. Nous pensons qu'il faut voir. C'est le point de vue de la société qui doit s'imposer aux spéculateurs. Alors, nous agirons, chacun dans le pays, de manière démocratique, pour que des décisions se prennent politiquement. Alors, ce forum social mondial est né d'une discussion au monde diplomatique, dans mon bureau précisément. Au mois de février dernier, en 2000 donc, j'ai reçu l'avis d'un Brésilien qui s'appelle Odette Grajev, qui est l'animateur d'une association d'entrepreneurs brésiliens. C'est un chef d'entreprise, d'entrepreneurs pour la citoyenneté, qui venait recommandé par un ami très proche, qui s'appelle Chico Whittaker, qui est secrétaire de la commission Justice et Paix de la Conférence épiscopale du Brésil. Donc c'est un homme qui est proche des milieux de l'Église brésilienne. Et il venait me voir en tant que président d'ATTAC en me disant, voilà, il sortait de Davos, il faut organiser un contre-Davos, et vous, ATTAC, vous devriez faire ça. Et son idée, c'était que nous le fassions en France. Alors, j'ai discuté avec lui, et puis je lui ai dit, faire un contre Davos en France, ça n'a pas grand intérêt. La rupture n'est pas, il n'y aurait pas de rupture symbolique. On discutait, on pensait à haute voix en quelque sorte ensemble. Et je dis, à mon sens, il faudrait faire ça dans le Sud et aux mêmes dates que Davos et prendre comme nom forum social mondial, alors que Davos c'est le forum économique mondial. Il fallait marquer la différence géographique, symbolique donc aussi, mais aux mêmes dates. Ça c'était une réaction disons, de journalistes. Si on le fait avant ou après, c'est pas pareil. Le faire au même moment, ça oblige à choisir. Et je dis, et en y regardant bien, je ne vois aucun pays où on puisse le faire sauf au Brésil, et en y réfléchissant encore plus, moi je pense que c'est dans Rio Grande do Sul et à Porto Alegre qu'il faut le faire, parce que Porto Alegre a déjà une référence pour ses expériences démocratiques de budget participatif, également pour le mouvement des sans-terres qui est né ici, il faut s'en souvenir, pour l'interdiction des OGM que l'État a décrété. Les OGM sont interdits dans les têtes Rio Grande do Sul. Donc déjà, il y a des réalisations locales qui sont déjà emblématiques. Et puis voilà, la discussion s'est arrêtée là, et je leur ai dit, écoutez, dès que vous aurez bien avancé au Brésil sur ces questions-là, moi je vais au Brésil et on en reparle. Et effectivement, au mois de mai, je suis retourné au Brésil, ils avaient beaucoup avancé, nous sommes venus à São Paulo, puis ici, où nous avons rencontré le gouverneur Olivier Dutra, le maire de l'époque, Raoul Ponte, qui nous ont promis toute leur appui logistique. Et ensuite, c'est posé la question de qui serait le chapeau, l'organisation. Les Brésiliens pensaient qu'il faudrait créer une sorte d'organisation internationale qui organise le forum. Moi, j'étais contre parce que je dis, si on fait ça, vous ne le ferez pas, votre forum. S'il faut mettre d'accord 14 pays, je dis non, c'est à vous, Brésiliens, de l'organiser. Et les Brésiliens, qui étaient modestes, disaient, mais pourquoi nous? Est-ce que nous, on a la légitimité pour le faire? Je dis, oui, vous avez la légitimité. Le Brésil a une grande capacité de convocation, précisément en raison des luttes sociales qui s'y mènent, et puis des bases politiques qui y sont. Donc ils ont accepté la suggestion, et donc c'est un comité de 8 entités brésiliennes, dont le Monde Diplomatique du Brésil et ATTAC Brésil, et 6 autres, qui ont pris en main l'organisation, étant entendu que nous, les autres ATTAC et les autres mouvements du reste du monde, nous appuierions. Mais c'est eux, et eux seuls, qui décident de tout.
Et qui a travaillé sur le programme, sur le thème qui a fait ce programme?
Le programme a été élaboré par le comité brésilien, donc, et la base a été fournie par l'un des 8, qui est Candido Grabowski, qui est le directeur de l'Institut IBAS à Rio, qui est une institution qui a un grand prestige international. C'est un institut de recherche sociale et économique. Je sais plus très bien ce que veut dire IBAS, I-B-A-S-E. Il a fait un premier projet qui a été discuté, et puis voilà, c'est parti. Mais il faut que vous compreniez, tout ça s'est fait dans une improvisation, une hâte, une urgence totale, ce qui explique certaines des insuffisances. D'ailleurs, nous disons que ce forum, c'est le numéro zéro du forum. C'est pas le numéro un. Le numéro un sera l'an prochain. C'est vrai que ça serait bien que ça se fasse dans d'autres endroits, pour mobiliser des Africains, des Asiatiques. Mais je pense que les premières années, il vaut mieux garantir qu'il ait lieu. Parce que c'est ça qui est en jeu. S'il ne se fait pas ici, à mon avis, nous n'avons pas la certitude qu'il peut avoir lieu en 2002. Ça, c'est une opinion personnelle et la décision sera prise par le comité brésilien. Donc au moment où nous parlons, nous ne savons pas. Mais mon idée, et puis celle d'ATTAC, celle du monde diplomatique, c'est que au moins l'an prochain, il faut que ce soit au Brésil pour être sûr que ça se fera. Et puis il y a aussi une dimension, je dirais, image de marque. C'est vrai que Porto Alegre s'est installé dans le paysage mondial en 48 heures. C'est un record absolu. Et grâce à nos amis de Davos, ont beaucoup fait pour ça, faut dire. Avec les fils de fer barbelés, le camp de concentration, comme disait Fidel Castro. Moi, j'ai réfléchi, je me disais que c'est un camp de concentration dans lequel se sont enfermés des marxistes primaires. Parce qu'eux, ils croient vraiment à la prédominance des infrastructures, c'est supertube. Eux, ils pensent que c'est la finance qui doit déterminer tout le reste. Donc les vrais marxistes primaires sont à Davos. Et ils se sont enfermés eux-mêmes dans un goulag. Un succès, mais c'est déjà un succès. C'est grâce à vous, d'ailleurs. Parce que, mais Ignacio l'expliquera mieux que moi, je crois qu'il y a une logique médiatique qui fait que, en le faisant en même temps, avec l'effet de contraste, on avait de bonnes chances que ça marche. Tu vois pas ? Parce que les journalistes, qui sont nus. C'est plus drôle, il y a plus d'images ici. Il y a de l'image, il y a du son à faire ici. Ça bouge. Le fait que ça ait lieu en même temps qu'à Davos, déjà, nous nous sommes nous-mêmes fait de la publicité sur le dos de Davos. Et il y a même certains titres. Le Figaro a eu un titre meilleur que Le Monde. Le Monde a dit Porto Alegre contre Davos. Le Figaro a titré Davos contre Porto Alegre. C'est exactement notre thèse. Notre thèse, c'est que Davos est un contre Porto Alegre. Ici, vous avez les représentants des sociétés, des mouvements sociaux, des syndicats, des élus du suffrage universel, qui donc représentent quelque chose. Et à Davos, vous avez... C'est une réunion factieuse, je dirais, sectorielle, défendant des intérêts particuliers et qui voit le monde à travers les lunettes de la finance. Monsieur Soros, il a des lunettes de spéculateur, de méga-spéculateur, et il voit le monde à travers ça. Nous voyons le monde à travers les besoins des sociétés. Je veux dire que nous devons maintenant mériter ce succès. Pour l'instant, nous ne l'avons pas fait encore. Le succès est là, maintenant nous devons être à la hauteur de ce succès. Nous devons y être dès ce forum, en commençant à élaborer des propositions précises, mais ne nous faisons pas d'illusions. Vous avez vu, c'est une grande expérience. Il ne sortira pas grand-chose, pour des raisons de désorganisation, d'improvisation, etc. Mais c'est dès le lendemain du forum que nous devons être à la hauteur de ce succès. Et je crois que ça se fera. Mais la partie n'est pas gagnée. La partie médiatique, elle est gagnée, mais elle peut être très vite perdue. Il y a un énorme travail à faire, mais vous avez pu noter l'enthousiasme des gens. Et moi, ce qui me frappe, je suis avec une délégation d'attaque assez nombreuse, et il y a beaucoup de gens parmi eux qui n'avaient jamais mis les pieds en Amérique latine, ni au Brésil, bien sûr. Et ce qui les frappe, eux, c'est comment, sur le même sujet, il y a des approches, mais totalement différentes, auxquelles ils n'avaient jamais songé. Et il y a un frottement culturel qui se fait, qui est extraordinaire, et qui va nous faire du bien aux uns et aux autres. Parce qu'il faut aussi, même que nos amis argentins ou brésiliens, comprennent notre façon de voir. Sur les mêmes sujets, on est d'accord sur le sujet, en gros, mais on y arrive par des voies totalement différentes. Et il est bon que nous sachions quelles sont ces voies et ces priorités différentes chez les autres. Ici, il faut que ça marche à l'unanimité. On ne va pas voter, jamais. À Davos non plus, on ne vote pas, vous me direz. Hein. Et nous n'entendons pas élaborer face à la pensée réellement unique, ce marxisme primaire dont je parlais de Davos, nous n'entendons pas élaborer une doctrine comme ça, unique. Il y a des sociétés très différentes, et notre thèse, c'est que c'est chaque société qui doit s'organiser selon ses propres valeurs, selon ses propres critères, et il ne faut pas qu'il y ait de modèle unique. Or, la mondialisation libérale, elle tend à imposer un modèle unique. Quand José Bové s'en prenait à un McDonald's, il s'en prenait effectivement à un symbole. Que vous alliez à Pékin, à Moscou, à Sydney ou ici, c'est le même McDonald's avec les arceaux jaunes, etc. Et c'est un bon emblème de la mondialisation. Le forum, vous savez, il a été bâti en 6 mois. Et faire venir des Asiatiques et des Africains, ça coûte cher. Il faut mobiliser des fonds pour payer les voyages. Les Africains ne viendront pas, ils n'ont pas l'argent pour payer. Donc si nous avions eu 3 mois de plus, nous aurions eu beaucoup plus d'Africains. Il y en a des Africains, mais il n'y en a pas du tout au niveau requis. Idem pour les Asiatiques. Je pense, mais ça, le prochain, ça se réglera, on aura le temps de voir venir. Ça, c'est pas un problème. D'ailleurs, le groupe Afrique qui s'est réuni a constaté sa sous-représentation, mais il l'a constaté non pas pour récriminer, mais pour dire il faut que nous soyons plus nombreux la fois prochaine. Et ils le seront. Pour les anglo-saxons et les Allemands ont fait un effort. L'Institut Goethe est ici et a jugé que c'était très important et m'a invité d'ailleurs à participer à un débat lundi sur l'Europe, auquel si je puis être libre, je vais y aller. Mais l'Institut Goethe a compris l'importance. Peut-être n'a-t-il pas été en mesure de faire comprendre cette importance en Allemagne. La presse allemande est présente, mais pas massivement. Mais j'ai noté, en revanche, que la presse financière anglo-saxonne est présente. J'ai discuté avec 2 journalistes du Financial Times. Ils sont venus à 2, le Financial Times. J'ai parlé avec Reuter aussi, qui est une agence financière. J'ai parlé avec le Dow Jones. Donc, eux, ils sentent quelque chose. Ils sentent plus vite que nous et plus fort que nous. Alors pour les Américains sont présents, mais pas non plus au niveau que... Là, je vois un autre phénomène. Je pense que, par nature, un peu les Américains, même nos amis américains, concert que l'Amérique est le centre du monde, malgré tout, hein, que c'est là que ça se passe. Et ça, justement, ça ne se passe pas aux États-Unis, ça se passe au Brésil. Je crois qu'ils seront beaucoup plus nombreux la fois suivante. Et je crois que c'est bien que le premier forum social mondial ne soit pas dominé par les ONG anglo-saxonnes. Hein. C'est aussi une façon de créer de la multipolarité au sein du mouvement social mondial.